Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Dans cette deuxième émission sur Carlos Calatroni, Axel Maugé, notre chroniqueur, auteur d'un essai qui s'intitule « Les élites, Argentine et la France », un essai qui est paru aux éditions de l'Harmattan, évoque sa rencontre avec ce psychanalyste, l'un des plus connus d'Argentine et d'Amérique du Sud.
Espagne, chère aussi à Jean Cassou, fondateur du musée d'art moderne et qui en son temps a su établir un pont spirituel solide entre le pays de Cervantes, l'Amérique du Sud et la France. N'est-ce pas émouvant de retrouver ici de véritables précurseurs du dialogue des cultures ? Ce cher Jean Cassou que j'ai connu et tant apprécié. Avant Roger Caillois, il a aidé de nombreux écrivains et poètes d'Amérique du Sud, parmi eux Borges venait en tête, suivi de près Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco. Il admirait aussi infiniment le peintre mexicain Rufino Tamayo et j'en passe. Ce soir, alors que je me trouve dans un restaurant animé de Buenos Aires, j'écoute Carlos Calatroni évoquer devant moi les œuvres à la fois puissantes et brûlantes de Victor Hugo, d'Albert Camus et de Jorge Luis Borges. Ces œuvres combles d'humanité nous passionnent. Nul doute que poètes et artistes du monde entier, en secouant l'indifférence, nous aident à résister aux forces de destruction. On comprend qu'après son séjour stimulant en France, Carlos Calatroni ait voulu fonder un institut de psychosomatique à Buenos Aires, reconnaissant pour la formation qu'il a reçue dans notre pays. Il a réussi à organiser deux symposiums argentino-français, le premier en 1991, le second en 1994. En outre, il m'apprend qu'il vient de créer la Fédération internationale de psychosomatique, l'Argentine étant bien entendu l'un des membres fondateurs. Son passage en France a conforté le docteur Calatroni dans l'idée que le pays de Jean Renoir s'affirme toujours comme une terre au service des libertés. Lorsque l'entretien aborde l'époque de la dictature, je sens une immense pudeur s'emparer de mon hôte. De nouveau, comme pour conjurer le mauvais sort, il cite plusieurs auteurs français qui lui ont alors apporté un réconfort moral. Pour survivre durant la dernière dictature, il fallait s'isoler complètement. Tous ceux qui pensaient, réfléchissaient, étaient non seulement tenus en suspicion, mais menacés. Autour d'eux, c'est-à-dire autour de ces petits îlots de liberté très surveillés, très comprimés, régnait d'une part l'appareil militaire répressif et rôdait d'autre part des groupes marxistes exaltés par des lendemains meilleurs. Pour quelques-uns d'entre eux, 1917 n'était pas loin. Sait-on en France que parmi les milliers de disparus, on dénombre pas moins de 2114 universitaires. On ne peut qu'admirer la ténacité des maires de la Plaza de Mayo à exiger que justice soit rendue. Jacobo Timerman, fondateur de La Opinion, un journaliste kidnappé en 1977, détenu 30 mois et torturé, a pour sa part dénoncé ses geôliers dans Prisonniers sans nom, cellules sans numéro. Dans ce livre, il a essayé de mettre en scène une situation la sienne. Il raconte qu'il avait défié les fascistes de gauche et de droite d'avoir sa peau. Ce qui subsistait de l'intelligentsia modérée, soucieuse de défendre des bribes de démocratie, ne recevait aucune aide, n'avait aucune représentation. Aucune autorité morale n'est venue freiner les extrémistes de tous bords, pas même l'Église. L'Église avait abandonné son rôle de protectrice des faibles, de protectrice sans voix. L'Église est pourtant hantée par la mort mystérieuse de l'un des siens, Monseigneur Enrique Angelelli, qui constituait en 1976 un dossier sur les violations des droits dans la province de la Rioja. Il a fallu un évêque ordinaire en la personne de Monseigneur Miguel Essen pour réfléchir à haute voix. Qu'en vint le pape en 1982, nous avons parlé contre la torture, mais nous avons donné la communion aux auteurs des tortures. Je dois demander pardon au peuple de Dieu. Il rappelait ainsi la complaisance de certains aumôniers qui réconfortaient les auteurs d'exactions plutôt que les victimes évacuées dans les vols de la mort. La gorge serrée, mon interlocuteur me dit que les démocrates n'avaient aucune marge de manœuvre, ne pouvaient faire aucun choix, sauf celui de se taire et de se terrer. « No te metas, no te metas », je répète, « ne t'en mêle pas ». Telle était la formule utilisée par bon nombre de citoyens. On constate une fois de plus à travers la terrible expérience argentine combien la démocratie est fragile sur notre planète. Lors de crises majeures, les extrémistes de tous les bords cherchent à s'emparer du pouvoir. Aussi, durant ces années de plomb, le poids moral de la France représenta-t-il un rayon de lumière exceptionnel pour Carlos Calatroni. Il savait que ce qui se passait dans les caves était terrible. Il lui arrivait d'être informé par des amis ou des relations, les uns proches de l'armée, les autres de la guérilla. Dans un tel contexte de peur et de terreur, aucune aide extérieure ne franchissait les murs. Ce merveilleux francophile qui est devant moi, ce soir, ne pouvait en ce temps-là ni parler ni s'exprimer. Pour oublier la folie ambiante, il relisait Camus et Céline. Ces auteurs lui ont permis de survivre en tant qu'homme de raison dans un monde devenu fou. Comment a-t-il résisté aussi longtemps à la peur qui s'infiltre partout ? Il me répond par ces mots : grâce à ma foi, à ma famille, à mes lectures et à mon travail de médecin. Grâce à cela, j'ai pu traverser ces années terribles. On n'imagine pas en France ce que de nombreux Argentins ont enduré durant cette longue période de privation des libertés. Carlos Calatroni me raconte encore qu'un de ses patients, le président d'une banque, venait toujours dans son cabinet accompagné par plusieurs gardes du corps. Leur présence rendait l'atmosphère angoissante. Ses patients souffraient énormément. Certains étaient traumatisés, rien qu'à l'idée qu'un extrémiste pouvait avoir inscrit son nom dans son carnet d'adresse. En cas d'arrestation, on imagine aisément la suite. La peur des attentats traumatisait l'ensemble de la population. Le docteur Calatroni me regarde dans les yeux avant de me souffler. Il ne faut plus que ce genre de situation se reproduise dans un pays comme l'Argentine. Imaginez la souffrance indicible de ceux qui n'ont jamais eu de nouvelles d'un des leurs, ces fameux disparus. Combien sont-ils ? 15 000 ? 20 000 ? 30 000 ? Allez savoir qu'évoque le livre intitulé « Nunca más », « Jamais plus », dirigé par l'écrivain Ernesto Sabato. Ce fut une époque horrible, dont témoignent, ai-je dit plus haut, les cris des veuves, celles que l'on appelle les folles de Mayo. Comment expliquer cette dictature ? Les causes sont multiples et profondes. Plusieurs d'entre elles remontent à Juan Perón, personnage vivement influencé par Mussolini, qui a réussi à lancer une révolution sociale sans être lui-même marxiste. Il y a là cette fameuse formule de Perón qui est en voiture, qui dit à son chauffeur « Mettez le clignotant à gauche et tournez à droite ». Voilà le personnage. Perón est sans conteste un personnage clé d'histoire pleine de souffle de l'Argentine. On ne saurait oublier qu'il a bénéficié de sommes astronomiques versées par les nazis, comme en témoignent les documents que nous connaissons sur le réseau d'évasion nazi connu sous le nom d'araignée, en allemand « Der Spinner ». De février à mai 1945, pas moins de 7 sous-marins allemands viendront jusqu'en Patagonie transférer une partie importante de la caisse centrale des SS. Pour les remercier de leur aide financière, le général mettra à la disposition des nazis une manne de 10 000 passeports argentins en blanc ou vierge. Aussi, la plus forte concentration de nazis de toute l'Amérique du Sud s'établit-elle dès la fin de la guerre en Argentine dans une région privilégiée à la charnière de trois frontières, celles du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Les experts considèrent que pas moins d'une quinzaine de hauts responsables nazis auraient trouvé refuge en Argentine après la chute du Troisième Reich. Un des plus recherchés mais sans succès fut sans aucun doute Martin Bormann. Adolf Eichmann vécut lui de nombreuses années en Argentine dans la banlieue de Buenos Aires avant d'être enlevé en 1960 par un commando israélien. Quant à Joseph Mengele, le fameux médecin, l'ange de la mort, il était arrivé en 1949 à Buenos Aires avant de s'enfuir au Paraguay et de mourir au Brésil en 1979 et la liste pourrait s'allonger. En novembre 1995, le gouvernement argentin a finalement accepté d'extrader pour la deuxième fois seulement dans l'histoire de ce pays, la première c'était en 1990, un criminel de guerre, l'ancien officier nazi Erich Priege, âgé de 83 ans, qui avait participé au massacre des fosses ardéatines à Rome le 24 mars 1944 et où 335 civils italiens avaient été fusillés. À la télévision italienne, Erich Priege avait fait allusion à l'aide qu'auraient apporté la Croix-Rouge et le Vatican aux criminels de guerre pour leur permettre de s'enfuir en Amérique latine. Même si l'influence qu'ont eue les nazis en Argentine n'est pas encore assez connu, on l'imagine non négligeable dans le développement du péronisme. De nombreuses personnes bien informées que nous avons rencontrées s'accordent à dire que Perón était un pervers, un ambitieux, un mégalomane fasciné par le pouvoir. Au fil du temps, phénomène paradoxal, on constate que les milieux péronistes ont été infiltrés à la fois par les marxistes et les milieux catholiques qui avaient des intérêts sociaux, d'où la complexité du péronisme et l'existence d'une aile extrémiste déterminée au sein de ce mouvement. Selon Carlos Calatroni, l'impact de mai 1968 a été considérable en Argentine en confortant les mouvements anarchistes et romantiques dominés par la figure de Che Guevara. Ce Régis Debray d'un milieu tropical qui avait participé avec succès à la révolution cubaine à Cuba, le portrait géant du Che domine encore aujourd'hui la place de la révolution. L'effervescence qui existait à la fin des années 1960 s'explique également par le fait que les vieilles générations conservatrices désuètes avaient perdu le contact avec la réalité du monde en train de se moderniser. Les contacts que marxistes et catholiques sociaux auraient pu à la rigueur avoir avec la vieille élite étaient impossibles. Ce milieu figé dans un monde forcé d'évoluer explique le retour du péronisme, mais cette fois d'un péronisme révolutionnaire. Pour contrecarrer les ambitions inquiétantes de ce péronisme débridé, il a fallu, hélas, qu'une dictature militaire s'empare du pouvoir de 1976 à 1982. Phénomène paradoxal, c'est le conflit des Malouines qui, en 1982, a rendu possible la fin de l'aventure dictatoriale. Cette guerre, en réalité un conflit, était une fuite en avant, une véritable folie, décidé par le gouvernement militaire soucieux d'engager le pays sur la voie d'un ultranationalisme afin de maintenir son autorité. On connaît mieux à présent une partie des horreurs perpétrées par l'armée de 1976 à 1982, notamment les terribles vols de la mort où l'on jetait les prisonniers à la mer du haut des hélicoptères et des avions après les avoir drogués. Deux religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duguay, ont elles aussi disparu en 1977 dans des conditions que l'on ose imaginer. Les relations privilégiées ayant heureusement repris entre la France et l'Argentine après cette histoire terrible, Carlos Calatoli pense que le moment est revenu pour la civilisation française d'être mieux appréciée en Amérique latine. Pour lui, comme pour de nombreux Sud-Américains, le modèle français, à condition qu'il soit modernisé, apparaît être une sorte de garde-fou contre les aventures extrêmes. J'ai un peu de mal à croire que cette société si agréable qui m'accueille a connu de telles horreurs. Et pourtant, les faits sont là. Les témoignages abondent, on ne peut pas falsifier indéfiniment l'histoire. Au cœur de Buenos Aires, immergé entre hispanicité, italianité, francité et argentinité, je sens monter en moi le besoin croissant d'un véritable dialogue des cultures et du rôle que la France et la francophonie peuvent avoir dans le monde où s'affrontent les forces de l'humanité et de l'inhumanité. Qu'Albert Camus soit un sujet de conversation entre Carlos Calatroni et moi, ce soir, ne m'étonne pas le moins du monde. L'auteur de L'Homme révolté n'en finit en effet pas de témoigner contre ce qui détruit l'homme. C'est la fin de cette deuxième émission sur Carlos Calatroni. Et je vous signale que vous pouvez retrouver cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Et je vous rappelle que le téléchargement de ces émissions sont gratuites.